pratique de ce matin, c'est en route vers le baptême. Alors j'en reste à celles et ceux qui ont pris le baptême il y a bien, bien, bien longtemps, à ceux qui viennent de le vivre, et puis à ceux qui sont en réflexion et qui se posent des questions au sujet du baptême. Alors on lira quelques passages de la Bible, mais en même temps, je vais tenter de répondre aux questions qui se posent le plus fréquemment à propos du baptême. Le texte le plus lu et le plus connu se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28. C'est juste avant que Jésus nous quitte la terre et nous donne ses dernières instructions à ses disciples en disant, mais voilà ce que vous allez faire maintenant. Le texte se trouve donc dans Matthieu 28, verset 19, où il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la mission que le Seigneur a confiée à ses disciples et qu'il nous confie à nous. Alors, ce baptême dont on vient de voir l'expression n'est pas notre baptême à nous, il est pratiqué par un certain nombre de chrétiens dans le monde entier, et nous tâchons d'être fidèles à ce que le Seigneur nous a enseigné. Tant que nous resterons fidèles, et tant que nous serons animés du désir, c'est ce désir qui nous anime, de venir à la rencontre des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, et toutes les nationalités représentées ici dans notre environnement, et bien le Seigneur nous accordera sa présence. Et nous ne manquerons pas de ressources. C'est le but de cette église, de présenter l'évangile de Jésus-Christ. Puissiez-vous y être sensible et que, à la fin de ce temps, de parvenir, bien, vous puissiez aussi, vous êtes autant témoignés. Là, je suis interpellé. Là, on vient de chercher, comme on dit aujourd'hui. Alors, c'est quoi le baptême? C'est quoi? Le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible utilise le verbe baptiso, qui a donné baptisé. Et ce n'est pas le vocabulaire qui est tiré du contexte religieux, c'est un vocabulaire qui est utilisé dans la vie de tous les jours, qui veut dire plonger, immerger, submerger, nettoyer, laver. Par exemple, dans le domaine de la teinturerie, on plongeait un morceau de tissu d'un bain, et on utilisait ce verbe baptiso. Et lorsqu'il sortait du bain, il avait une autre couleur. Baptiso, lavé, nettoyé, plongé. Jean-Baptiste, c'était son surnom, on l'appelait Jean le Baptiste, Jean le plongeur, Jean le laveur. Et nous connaissons ce texte dans les évangiles où il est au bord du Jourdain, et il voit venir à lui des quantités de gens qui veulent se faire baptiser. Encore aujourd'hui, en Israël, nous avons eu la chance, mon épouse et moi-même, de nous rendre auprès du Jourdain. On voit toutes sortes de pratiques. Le Jourdain n'est pas très propre, non très très boueuse, mais les gens s'y trompent pour vivre ce baptême. Certains s'y trompent une fois, d'autres trois fois, d'autres sept fois, peu importe les pratiques, peut-être que certains se sont tellement sales et ont besoin d'être plongés plusieurs fois pour avoir ce sentiment de propreté. Et mes amis, combien parmi nous sont là aujourd'hui en se disant, si seulement je pouvais être propre, si seulement je pouvais recommencer ma vie, si seulement quelqu'un pouvait laver ma vie passée. Alors j'anticipe déjà sur ce que je veux dire, pour vous donner de l'espoir et pour vous donner de l'espérance. Nous avons quelqu'un. C'est pas cette eau qui lave. C'est une eau tout à fait normale. On y a ajouté un tout petit peu de produit pour des intérêts, peut-être un peu de chlore, peut-être un peu de javel, n'est-ce pas Rémi? Mais c'est lui qui lave, c'est le Christ vivant et ressuscité. Il y a la possibilité aujourd'hui d'être lavé, d'être purifié. Donc les chrétiens étaient immergés dans l'eau, et lorsqu'ils sortaient de l'eau, ils étaient des disciples de Jésus-Christ. Le même vocabulaire est employé par Jean-Baptiste, par Jésus, par les apôtres, par les disciples et toutes les églises du Nouveau Testament. Vous avez peut-être vécu une autre forme de baptême dans votre confession, dans votre dénomination. Alors, je vais vous dire qu'ici, à l'Église, nous sommes respectueux de tous les parcours des uns et des autres. Et nous avons chacun notre cheminement. Nous avons chacun une histoire. Nous avons chacun les expériences et notre vécu. Et ici, à l'Église, nous respectons profondément ce parcours de chacun et de chacune. Nous ne sommes pas dans le jugement, nous ne sommes pas dans la polémique, mais nous sommes dans le plus grand respect de votre expérience personnelle. Par contre, il est bien important de comprendre le message spirituel attaché au baptême. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Il ne s'agit pas d'ajouter juste quelques de christianisme à notre vie et de continuer comme si ne s'était rien passé. Alors on a essayé de traduire quelques bribes de témoignages au travers de ce que les uns et les autres ont pu vous dire. Alors l'émotion est très forte ce matin, vous le comprendrez, et tout ne peut pas être partagé. Par contre, ils ont tous vécu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ça c'est sûr. Ils ont tous changé de vie. Ils ont tous décidé de vivre pour Christ. Donc, il ne s'agit pas simplement de recevoir quelques gouttes de christianisme. Le sens du baptême, en fait, c'est de mourir à une vie passée pour naître à une nouvelle vie. Et c'est la raison pour laquelle le pasteur Raymond Pierre a posé la question, est-ce que tu t'engages à suivre Jésus-Christ? Et ils ont tous dit, oui. Le baptême, c'est un engagement, c'est un changement de parcours et on est accompagné par le Seigneur. L'Évangile vise la transformation de la personne. Il s'agit d'une métamorphose. Romains chapitre 6 dira, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis, c'est une mort à notre vie passée, avec lui, et nous marchons en nouveauté de vie, ou dans une vie nouvelle. Jésus a ôté nos fautes, il a pardonné nos péchés. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes grâces. On a chanté même le mot justifié, c'est-à-dire que Dieu nous rend notre innocence. C'est incroyable. J'ai connu des gens qui étaient prêts à faire des kilomètres pour trouver la paix du cœur, retrouver l'innocence. Eh bien, sachez qu'avec Jésus-Christ, c'est possible de trouver cette innocence, d'être lavé et d'être purifié. En 40 ans de ministère pastoral, j'ai entendu beaucoup de témoignages de la part de baptisés. En sortant de l'eau, c'est toujours un grand bonheur. Certains ont dit, c'est le plus beau jour de ma vie. D'autres ont dit, je me sens propre. D'autres ont dit, je suis aimé. Et quelqu'un dit, je suis lavé. Alors encore une fois, ce n'est pas cette eau simplement qui lave. C'est de l'eau tout à fait ordinaire. Par contre, c'est une expérience spirituelle. Le ciel est en émoi. Et la Bible dit bien, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a une expérience de repentance, c'est-à-dire qu'il y a un avant et il y a un après. Avant, je sais que j'étais pécheur. Maintenant, je suis toujours pécheur, mais je sais que j'ai été sauvé, j'ai été gracié, je suis pardonné et j'ai dans le ciel un Père qui m'accueille et toute une église qui est là pour m'accueillir dans sa grande famille. Alors le baptême, ce n'est pas un acte banal, ce n'est pas un acte anodin. Il impacte notre vie, il y a un avant et il y aura un après. Ça change tout. Le ciel est en émoi, il est avec nous. Alors est-ce qu'il y a une condition pour être baptisé? Oui, le foi. La foi. Croire. Et le pasteur de Montpierre a posé la question, crois-tu que Jésus est mort sur la croix pour toi? Alors, il y a aussi là quelques expériences dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament. On a par exemple l'expérience de ce ministre éthiopien qui est venu en pèlerinage dans la ville de Jérusalem et sur la route du retour, il lit une portion de la Bible, notamment le prophète Isaïe. Et dans Actes chapitre 8, 36, il nous a dit que Pierre s'est approché de lui a expliqué ce qu'il était en train de lire, et dans son cœur naît cette conviction très forte, « Moi aussi, je veux suivre le Christ !» Et il comprend au travers de ce que Philippe l'explique, Philippe l'évangéliste, il explique que le chemin du salut, il dira que le Seigneur est mort pour lui, et Acte 8, 36, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et ce ministre dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et l'évangéliste Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Il répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors ils arrêtent le soir, Philippe et ce ministre descendent dans l'eau, et Philippe le baptisa. Le baptême, ce n'est pas une question de mérite, parce que tout est grâce. Le baptême, ce n'est pas un certificat de bonne conduite. Le baptême, ce n'est pas un couronnement, c'est un commencement. Le baptême, ce n'est pas un gage de maturité spirituelle, mais c'est un début. On commence un parcours avec le Seigneur. Et jusqu'à la fin, nous serons en route. On est en route vers le baptême, mais après le baptême, on est toujours en route et on restera toujours en route jusqu'à la fin. Alors parfois, les gens étaient baptisés juste après avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Au début de l'Église à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, par exemple, Pierre se tient ce jour-là au milieu de la foule. Et il annonce l'Évangile, il parle de Jésus-Christ. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, la foule eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » À cette époque-là, on comptait sur tous les hommes, c'est un système de comptabilité, donc certains commentateurs pensent qu'il y avait beaucoup plus que 3000, en y ajoutant les femmes et les jeunes. Mais 3000, ce même jour, avaient été baptisés. On a l'exemple d'un certain Saul de Tarse, Saul qui se convertit sur la route de Damas. Il est parti pour persécuter les chrétiens qui étaient à Damas. Et sur ce chemin de Damas, il a une rencontre avec Jésus-Christ qui lui parle, qui l'interpelle et qui lui montre qu'il est sur une fausse route. On a bien chanté, montre-moi qui je suis loin de toi, sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Lui, il pensait faire bien, c'est un intégriste. Il pensait vivre pour Dieu, faire pour Dieu. Et le Seigneur l'a arrêté. Il se convertit de façon dramatique sur le chemin de Damas. Et pendant 3 jours, il est aveugle. Et un certain Ananias vient à sa rencontre. Et il va lui parler. Il lui dit, le Seigneur m'envoie vers toi. Sois guéri. Et il est guéri de sa cécité. Aussitôt, dit le texte, il tomba de ses yeux comme des écailles, de ses yeux, et il retrouva la vie. Il se leva et fut baptisé. 3 jours avant, c'était un ennemi de chrétien, un persécuteur. Maintenant, c'est un frère, un membre de l'Église. On pense à Cornélie, un militaire. Acte chapitre 10, c'est un officier romain de la cohorte italienne. Il prie avec les siens, sa famille, il fait beaucoup de bien, il donne beaucoup d'argent aux pauvres. Il cherche Dieu. Et voilà que, d'une manière miraculeuse, le Seigneur dit à Pierre, va dans la maison de Corneille, parle-lui, parce que c'est un homme qui me cherche. Et Pierre se rend chez lui pour lui parler. Et pendant qu'il parle, le Saint-Esprit vient. Et tous les cœurs, ils sont convaincus. Ils tournent vers Dieu. Et Acte 10, 47 dira, peut-on refuser, c'est l'apôtre Pierre qui dira avec ses amis qui étaient venus, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous. Il leur donna venez baptiser au nom du Seigneur. C'est comme ça, au jour où ce gardien de prison de Philippe dans l'Éphèse, l'apôtre Paul, les silences sont emprisonnés à cause de leur foi, à cause de l'annonce de l'Évangile. Et au milieu de la nuit, vivant, ils prient. Il y a un grand tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent de toutes les tous les prisonniers, et ce gardien de prison, ce gardien, laisse donner la mort. Et l'apôtre Paul dira, ne te fais pas de mal. On est tous là. On est tous là. Et lui, il sent que vraiment quelque chose qui vient de Dieu, il est sensible. Et il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Écoutez bien cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et l'apôtre Paul, il a dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi. Après cela, ce gardien de prison invite Paul et Silas dans sa maison. Ils sont avec les siens, ils mangent un petit morceau. L'apôtre Paul lui explique le chemin du salut. Et dans cette même nuit, il est baptisé avec les siens. Est-ce qu'ils étaient parfaits? Pas du tout. Sûrement pas. Vivaient-ils sans faute, sans commettre d'erreur? Pas du tout. Mais ils avaient simplement accueilli. Et par la foi, ils ont accueilli le Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que ces chrétiens vivaient sans combat après le baptême? Pas du tout. Lisez les lettres du Nouveau Testament qui sont adressées à des chrétiens baptisés et vous verrez à quel point ils avaient encore besoin de progresser dans la foi. Alors, la question qu'on nous pose très souvent, c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut-être sauvé? Alors le baptême en lui-même ne sauve pas. C'est la foi en Jésus-Christ, le Sauveur qui sauve. Ce n'est pas une église qui sauve. Nous ne pouvons sauver personne. C'est le Sauveur qui sauve. Et c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Mais tôt ou tard, lorsque je lis ma Bible, lorsque je fréquente les vrais chrétiens, lorsque je me rapproche du Seigneur, tôt ou tard, finit par naître dans ma vie une conviction. Il faut que tu te lèves pour Jésus-Christ. Il faut que tu prennes position publique. Et l'une des manières de le faire, c'est de prendre le baptême. C'est aussi un témoignage public devant tout le monde. Je crois que Jésus m'a sauvé. Je crois qu'il m'a pardonné. Et je crois qu'il m'a sauvé. Et même je suis, vous avez entendu tout à l'heure, certains venaient du milieu catholique, moi je viens d'un milieu protestant. Je suis d'origine luthérienne. J'ai fait mon petit catéchisme et j'ai fait mon grand catéchisme. Et tous les luthériens vont vous retrouver dans ce que je vais dire maintenant. Et nous avons appris le catéchisme de Luther, s'il vous plaît, en français et en allemand. Vous ne pouvez pas être un vrai luthérien si vous n'appreniez pas le catéchisme de Luther en allemand. Et bien, je dois vous dire que ça donne des bases dans la vie. On a appris par cœur les 10 commandements. En allemand, français. Là, je vois des gens qui hausent la tête, mais oui, ça nous a donné des bases doctrinales, de l'enseignement biblique. Une assise, comme disent les Allemands, ein Sitzleben, une assise dans notre vie. Et ça nous a plus jamais quitté. Après le Notre Père, on a appris un tas d'éléments de l'Évangile, de la Bible. Et je remercie Dieu pour ce parcours. Alors pourquoi je dis que nous avons les uns les autres un parcours, un cheminement, on ne se fait pas tout seul, les amis. Il y a des gens qui nous ont accompagnés, il y a des gens qui nous ont aidés à croire, il y a des gens qui nous ont suivis, et des gens qui ont prié pour nous, pour qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui. Et à partir de là, j'ai rencontré aussi des chrétiens évangéliques avec qui j'ai lu la Bible. Et à partir de là, dans mon cœur, des convictions, et à la suite de ces convictions, j'ai réalisé qu'il fallait que moi aussi, je me manifeste et je prenne position par mon acte dans le baptême. J'ai pris donc au sérieux la parole et je me suis engagé dans une vie de disciple. Alors, quelqu'un qui n'est pas baptisé peut-il être sauvé? Vous avez le témoignage de ces deux malfaiteurs à côté de Jésus sur la croix. l'un l'insultait de souverain et l'autre le suppliait. Dans Luc, au chapitre 23, on lit cette parole: pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce que méritait les autres, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur lui a dit: attends, il faut d'abord qu'on trouve de l'eau et qu'on puisse te baptiser. C'est ça qu'il a dit, le Seigneur? Non, il a dit: aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, tu n'es pas baptisé, mais aujourd'hui, j'ai vu ton cœur, j'ai vu ta repentance, j'ai vu ta foi, et sur la base de ta foi, je peux te dire, tu seras avec moi dans le ciel. Le baptême est donc un engagement public à suivre Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Les Anglais disent « follower », les Allemands disent « nachfolger », quelqu'un qui suit. Le texte original, le mot, c'est « mathétès », qui a donné le français « mathématique ».« Mathétès », c'est un disciple, c'est un apprenti. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous sommes des apprenants jusqu'à la fin de notre vie. On est en formation continue. Quelqu'un qui apprend à vivre comme Jésus. Crois-tu? T'engages-tu? Et la réponse a été oui. Nous sommes donc témoins aujourd'hui de l'engagement de nos frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas les bébés qui ne sont pas en mesure de pouvoir prendre un engagement et qui ne peuvent pas dire oui, je crois. Et nous préférons attendre que les uns et les autres soient en mesure de, justement de pouvoir dire oui, moi je m'engage de manière consciente et volontaire. Personne ne les a poussés à se faire baptiser. C'est eux-mêmes qui ont décidé d'un choix volontaire et personnel qui les a amenés jusqu'au baptême aujourd'hui. Le baptême des bébés, en fait, c'est un enseignement qui est né au XIIe siècle, au moment du Moyen-Âge. En fait, le Moyen-Âge est une période très, très sombre, et c'est à ce moment-là qu'est née cette doctrine de baptiser les bébés, parce que l'enseignement, c'était celui-ci, c'est qu'on ne pouvait pas être sauvé à moins d'être baptisé, et comme il y avait à ce moment-là beaucoup d'épidémies, beaucoup de maladies et que beaucoup de bébés mouraient, on les a vite baptisés. Alors, on a cette croyance qui consistait à dire qu'un bébé qui n'était pas baptisé, il allait quelque part dans les limbes, c'est-à-dire quelque part entre le ciel et l'enfer, et qu'il n'était pas accueilli au ciel. Mais cet enseignement n'a aucun fondement biblique. On voit bien dans la Bible que les enfants sont innocents et qu'ils sont accueillis auprès du Seigneur. Le ciel leur est largement ouvert et les enfants sont innocents devant Dieu. Ça peut être aussi que dans la Bible, les enfants sont présentés à Dieu. C'était le cas pour Jésus. Jésus n'a pas été baptisé en tant que bébé. Par contre, il a été présenté. Joseph et Marie sont venus au temple et là, dans les bras de Simon, il est présenté, il prie pour lui, et Simon prie aussi pour la famille. Il prophétise sur cette famille de grandes choses. Il a été baptisé à l'âge de 30 ans, en tant que Dieu. Et nous faisons aussi la même chose. Nous présentons les enfants au Seigneur, nous présentons la famille, nous disons: Seigneur, bénis cet enfant. Et c'est quelque chose qu'il fait. Vous voyez, dans la Bible et dans l'Évangile, Jésus dira: laissez venir à moi les enfants. Et ne les en empêchez pas. Nous ne baptisons pas les enfants parce qu'ils ne peuvent pas s'engager à suivre Jésus. Et puis le baptême, c'est l'affirmation de notre identité. D'appartenir à Jésus. On voit ça aussi dans la vie de tous les jours. On a des fans, il y en a parmi nous, des fans de tel club ou de tel équipe de foot, on les voit avec les maillots, on les voit avec les écharpes, parce qu'ils s'identifient à une équipe. Et bien, le baptême, c'est une identification. On revêt le maillot, on revêt les couleurs de Jésus-Christ. Et on affirme qu'on lui appartient. On lui appartient. Colossiens, chapitre 2. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Galates 3, verset 1, vous êtes tous au fond de lui par le foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. On porte le maillot de Jésus. Alors, il y a un moment où les chrétiens doivent se lever pour dire oui, moi j'appartiens à Jésus. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce qu'il m'a pardonné. Je suis fier de lui appartenir. Je suis fier de faire partie de son Église. Et dit oui, je suis un chrétien. Le baptême, ce n'est pas seulement un événement d'une journée, c'est un engagement pour toute une vie. Il ouvre une route pleine d'espérance. Ma fin sera meilleure que mon commencement. Et je ne vis pas seulement par mes propres forces, mais je vis parce que je suis appelé à vivre la vie de Dieu. Je suis greffé sur la vie du Seigneur. Il y a ce texte qui dit que je suis greffé. Mais sur les mêmes plantes avec lui, c'est Romains 6 qui nous reste là. La vie de Christ est en moi, elle vit en moi. C'est l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts, vit en vous. Alors, tout est possible. Il y a une vie nouvelle en moi. Les choses passées sont passées et tout est devenu nouveau. Alors, à vous qui êtes baptisés depuis longtemps, je veux dire que nous sommes en route aussi. Vous êtes baptisé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Nous sommes en route. Le baptême, c'est un moment inoubliable. Mais en même temps, il ne changera pas grand-chose si nous ne décidons pas de continuer notre route avec lui. Nous sommes en route. Nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas parfaits. Non, nous ne sommes pas encore au ciel. Il y a encore de la route. J'aimerais vous dire, accordez-vous le pardon de Dieu. Accordez-vous. À ceux et celles qui encore sont en lutte, en proie avec toutes sortes de défauts, toutes sortes de combats. Oui, c'est normal. Accordez-vous le pardon du Seigneur. Pardonnez-vous à vous-même. Ceux qui ne savent pas faire grâce aux autres sont des gens de certains se faire grâce à eux-mêmes. Ceux qui ont du mal à pardonner aux autres sont souvent des gens qui, parfois, ont du mal à se pardonner à eux-mêmes. Ce matin, j'ai un message de la part du Seigneur pour vous. Pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous, car Christ vous a pardonné. Christ vous a pardonné. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes en chemin. Après le baptême, il y a encore des faiblesses, il y a encore des erreurs. Oui, mais qui est trompé sur la vie de Christ. Il n'y a pas de pas. Je m'accorde la grâce d'être pardonné. Je pose cette question pendant que l'équipe revient ici pour conduire encore dans un chant. Y a-t-il quelque chose qui doit mourir en toi? Le baptême, c'est le signe d'une mort, une mort en lui-même. Mort le passé, mort une vie sans Dieu. Je meurs mon passé, je me tourne vers un avenir que le Seigneur me propose. Y a-t-il quelque chose qui doit mourir en toi? Une pensée, une intention, un désir, une action, une tentation qui est peut-être devenue passée. Parce que tout n'est pas mort instantanément le jour du baptême, non? Mais les choses sont en changement et en devenir. Est-il quelque chose qui est mort, qui doit renaître, ressusciter, l'amour pour un conjoint, pour une conjointe, l'amour pour un enfant? Le pardon peut être mort, le joie peut être mort, le courage, la générosité, Jésus qui vous suit, le fils de Dieu. Celui qui compte en moi. Et pour toi, quelque chose qui doit revenir. Et puis, pourquoi qui doit être nous rendre complètement, non seulement les personnes du baptême aujourd'hui, mais dans les vies de tous les jours, dans ton quotidien, et dans ton expérience, et dans ton parcours, ce pourquoi tu nous reviens sans cesse. Et tu nous dis un pourquoi tu dois être revenu à Dieu, pour devenir un pourquoi. Et Dieu te dira, profite de te demander pourquoi. Dis-lui, Seigneur, je te remets mon pourquoi. Je te remets mon pourquoi. C'est toi qui vas me donner ton comment. Celui qui a commencé à moi une bonne œuvre, il l'achève. Ça, c'est mon expérience. Je souhaite que ce soit aussi la vôtre. Je reprendrai le temps avec l'équipe et on va prier tous ensemble.